Bonjour, ce soir nous allons faire une lecture dans Proverbes chapitre 20 et verset 16. Proverbes 20 et verset 16. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Je vous le redis encore, être heureux ça veut dire être en marche, hein? On l'a vu au sujet des béatitudes. Jésus dit « en marche les pauvres », etc. « En marche ». Je prie pour que vous saisissiez toute la portée des choses que je vais vous donner ce soir. Que vous preniez ça très au sérieux. À la fin de mon message, ou plutôt non, dimanche, je vous proposerai quelque chose. Réfléchissez à ce que je vous dis ce soir, et dimanche je vous proposerai quelque chose. Comme un exercice, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un exercice spirituel de Loyola, pas du tout. Je dis ça pour que vous n'ayez pas peur, parce que quand on a peur, eh bien l'amour est paralysé. Je vais vous proposer quelque chose que le Seigneur m'inspire. Je ferai dimanche. Vous qui écoutez ce message, vous l'écoutez parce que vous êtes chrétien et parce que Dieu vous a conduit de telle sorte que ce soir, ben, vous m'entendiez. Un chrétien, c'est une personne qui est en marche vers le ciel. Nous avons aussi des buts à moins long terme, parce que le but à long terme, c'est donc le but final, lorsque nous quitterons cette terre, aller au ciel, c'est sûr, mais nous avons aussi des buts à court terme et des buts à moyen terme. Nous sommes en chemin vers ces buts, vers ces objectifs. Mais savez-vous que le chemin que vous faites, que vous êtes en train de faire, ce que vous vivez dans votre existence, c'est le chemin du pouvoir? Je vais vous expliquer. Je me souviens que quand nous avions la volonté d'acheter le château dans lequel nous vivons ici à la communauté, on était contents. Mais en même temps, c'était une torture. Ça a duré 8 mois, une torture de 8 mois. On a jeûné tous les jours, quelqu'un de la communauté jeûnait. Et voilà, c'était difficile. Et j'ai réalisé pourquoi c'était une torture en y pensant, comme la Bible dit là, réfléchissez sur les choses. J'ai réalisé pourquoi c'était une torture. C'est parce que nous ne souhaitions qu'arriver à atteindre notre but. Et puis au cours des mois qui ont passé, alors cette quête, c'est devenu un plaisir. Le plaisir de l'aventure. C'est comme ça qu'on nourrit nos rêves. Et un chrétien, il ne peut pas cesser de rêver. J'ai déjà dit ça souvent et je le répète encore maintenant. Le rêve, c'est la nourriture de notre esprit, comme les aliments sont la nourriture de notre corps. Si on ne rêve pas, c'est qu'on est mort. C'est-à-dire si on n'imagine pas l'avenir, si on ne construit pas, si on n'a pas des projets, c'est ça que je veux dire. Alors j'ai bientôt 65 ans, vous savez, c'est le 5 février pour ceux qui veulent faire des cadeaux. Et tout au long de ma vie, j'ai vu pas mal de rêves qui ont été déçus, qui ne se sont pas accomplis, des désirs qui ont été frustrés, tout ça. Mais j'ai toujours continué à rêver. Et je vous exhorte à rêver. Si vous n'avez plus de rêve, votre âme est sur le point de s'endormir si elle n'est pas déjà en train de dormir. Et puis ça va même, vous allez même mourir de ça. Si votre âme est morte, c'est grave parce qu'elle ne peut plus être pénétrée par agapé, par l'amour divin. Je me promenais dans le coin dernièrement, je déteste me promener, mais bon, là, je me suis forcé à faire un exercice un peu, parce que voilà, je me promenais dans le coin, et je faisais exprès de marcher très lentement. Je faisais ça exprès parce que j'avais le désir de bien ressentir ce que j'étais en train de faire, afin de bien voir tout ce qui m'entourait, afin de bien entendre les bruits des alentours. Alors, J'entendais un coq, j'entendais toutes sortes de trucs, toutes sortes de choses. On est à la campagne ici. Hein. Puis aussi profiter des odeurs de l'automne. Elles sont très différentes des odeurs de l'été ou du printemps. Hein. Et puis j'ai pensé, tout en marchant comme ça, à tous ceux qui avaient vécu là, sur ces terres-là, il y a des décennies, des siècles, des millénaires. Il y a des gens qui ont vécu là et qui se sont aimés, qui se sont haïs. Il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu des guerres, là. Quand on lit l'histoire, il y a eu des guerres ici. Et j'imaginais ces soldats qui s'affrontaient dans les plaines. Qui avait raison? Qui avait tort? Je marchais lentement, puis je pensais à tout ça. Vous voyez, comme la Bible dit là, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et je pensais à toutes ces choses. Et j'en suis venu à comprendre que qui avait tort, qui avait raison, ça n'avait pas d'importance en fait. L'important, quand on est chrétien, c'est de savoir, dans les deux camps, qu'on mène le bon combat. Dans les deux camps. Le bon combat, c'est celui qui est motivé par l'amour. C'est celui qui est motivé par la foi. Le bon combat, c'est celui qui est motivé par l'espérance. Il y a des soldats dans un camp qui se battaient pour leur patrie ou pour leur duché ou que sais-je, et puis les autres dans l'autre camp en face aussi se battaient par amour pour leur duché, pour leur patrie, pour leur famille, etc., etc. Celui qui sait qu'il se bat par amour pour Dieu, qui en est certain, qui se bat avec les armes que Dieu donne, celui-là, il est heureux. Et je vais vous dire, il est heureux même s'il se trompe. Et puis je marchais de plus en plus lentement et je pensais à ces chevaliers d'autrefois. Alors, vous savez, je suis un peu poète, hein, de temps en temps, j'aime pas tellement la poésie, mais moi-même, de temps en temps, je me paye le luxe de laisser vagabonder comme ça mon imagination, comme un poète. Et puis alors, je les imaginais, tous ces soldats, ces chevaliers qui avaient des terres à conquérir et tout ça. Puis je disais, oui, mais aujourd'hui, c'est fini, c'est plus comme ça, on n'a plus de terres à conquérir. Aujourd'hui, les choses ont changé, bien sûr. Et le bon combat n'est plus dans les vastes plaines, mais c'est à l'intérieur de nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est à l'intérieur de nous-mêmes. Frères et sœurs, le bon combat, c'est le combat qui est engagé pour atteindre nos rêves pour la gloire de Dieu, nos rêves pour le bien de nos familles, le rêve pour le bien de l'Église, pour le bien des gens qui sont encore dans les ténèbres et auxquels on parle de Jésus, et auxquels on donne des choses parce qu'ils sont dans le besoin, etc., etc. Et même pour le bien de nos ennemis. Quand on a cette sorte de rêve, enfin, en tout cas, moi, ça me fait bondir le cœur. Quand j'étais jeune, à 20 ans, j'ai tout quitté, ma Suisse, tout ça, tout le confort de ma belle villa en Suisse, à Chèvre, avec mes copains, tout ça, pour atteindre mon rêve. Je suis né en France. Il n'y avait même pas le téléphone dans toutes les maisons. Il n'y avait pas des baignoires, il n'y avait pas des douches dans tous les appartements. Mon Dieu, ça me semblait bizarre. Et puis, j'ai atteint mon rêve, j'ai pu faire mes études, etc. Et puis, je suis retourné en Suisse. Et puis, vers 22 ans, je crois, j'ai de nouveau tout quitté pour rentrer à Tinchallange. Et puis après, à 27 ans, j'ai de nouveau tout quitté parce que j'avais un rêve encore plus beau. Et puis, nous avons tout laissé encore à 40 ans, avec la Michou, pour atteindre un rêve plus grand, celui du château. 40 ans. Bon, on a encore plein de force à 40 ans. À 20 ans, à 27 ans, à 40 ans, on est encore plein de courage, de vigueur. Mais il y a une chose, c'est qu'on n'a pas appris encore à lutter. À 20 ans, ben, voilà, je me battais avec les armes que je connaissais, avec les façons, voilà. Mais à 27 ans, j'en savais plus sur le combat que quand j'avais 20 ans. Et à 40 ans, j'en savais encore plus. C'est l'expérience de la lutte pour atteindre nos rêves qui nous donnent de la sagesse. Par contre, avec l'âge, on a de moins en moins de courage. Il faut l'avouer. Et j'ai vu beaucoup de mes amis, des contemporains, des gens de mon âge qui se sont arrêtés. Quand on ne lutte pas pour atteindre son rêve, ben on finit par se battre contre soi-même. On commence à se dire que nos rêves, finalement, c'est infantile, c'est difficile à réaliser. Ou il y en a même qui disent qu'ils sont le fruit de la méconnaissance de la réalité de la vie. Voilà. Et j'ai vu beaucoup de mes contemporains vieillir et tuer leurs propres rêves. Bon, ils ont essayé de tuer le mien, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont tué leurs rêves parce qu'ils avaient peur de mener le combat. Alors ils se sont installés dans la routine, l'affreuse routine, dans les habitudes confortables, n'est-ce pas? Et finalement, comme le disait Camélia, ma vieille mère spirituelle, ah ben c'est la mort du petit cheval dans les bras de sa mère, voilà. Alors il y a des symptômes. Il y a des symptômes. Le premier symptôme qui apparaît du fait que les gens tuent leurs rêves, c'est le manque de temps. Ils commencent à dire qu'ils n'ont plus le temps. Oh, j'ai plus le temps. La vie est trop courte. Oh, les journées n'ont que 24 heures. J'ai plus le temps. Alors, vous connaissez, vous avez déjà entendu? Peut-être que c'est votre cas, non? J'ai plus le temps. C'est tellement de choses à faire. Le deuxième symptôme de la mort de nos rêves, c'est nos certitudes. Ah, nos certitudes. Avec nos certitudes, on tue nos rêves. On cesse de rêver. Parce que les gens ne veulent plus regarder la vie comme une grande aventure à vivre, à prendre des risques de foi. Ils commencent par dire que maintenant, ils sont devenus sages. Hein, et puis que ils peuvent comprendre par eux-mêmes, et puis qu'ils peuvent, ils voient bien que ils voient bien ce qui est juste, et puis ce qui est correct, et puis ils savent ce qui est sage dans le, en fait, ils attendent très peu de l'existence. À partir de là, quand on a des raisonnements comme ça, on attend très très peu de l'existence. Quelle horreur! Quand ils regardent en dehors, des murailles derrière lesquelles ils se cachent, derrière les murailles de leur quotidien, de leur routine, qu'est-ce qu'ils voient? Ben que les inconvénients du combat. Le bruit des lances qui se brisent, ils entendent parler d'un frère qui a eu un problème, qui a été emprisonné, ou ceci, ou cela, qui a eu un procès, ou machin, patin. Oh là là, ça fait peur. L'odeur de la sueur des combattants, n'est-ce pas? La poussière du sang, des grandes chutes, et du regard fou des guerriers qui sont assoiffés, n'est-ce pas, de conquêtes et de victoires. C'est des fous, faut les laisser. On est bien mieux derrière le muraille de notre train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Mais ils ne conçoivent plus, parce que leur pouvoir de rêver est mort, que la joie immense, c'est pas de gagner, mais c'est de se battre, c'est de mener le bon combat de l'amour, de la foi, de l'espérance. Et puis, alors que j'approche du but de ma promenade lentement, en méditant, en pensant aux choses, j'ai compris une troisième chose. Troisième symptôme de la mort de nos rêves, ça va vous étonner, c'est la paix. Quand on ne se bat plus pour quelque chose, la vie devient... Quelle horreur! Je répète, quand on ne se bat plus pour quelque chose, la vie devient comme le dimanche après-midi. Je déteste, depuis tout petit, le dimanche après-midi. La vie ne nous demande plus grand-chose, et puis voilà, elle n'exige pas plus que ce qu'on veut bien lui donner, et puis on vit notre dimanche après-midi. En pensant qu'on a enfin la paix, que c'est paisible, loin de toutes les fantaisies de notre enfance, loin de toutes les fantaisies de notre jeunesse, on se dit qu'on a atteint notre réalisation personnelle, familial, professionnel, spirituel, mensonge. Quelle horreur! Parce qu'en vérité,
On a juste tué notre pouvoir de rêver, notre pouvoir de mener le bon combat de l'amour, de la foi, de l'espérance. Vous voyez, j'en connais pas mal des gens de mon âge qui ont renoncé à leurs rêves et qui ont trouvé cette sorte de paix. Mais ce n'est pas la paix que Jésus donne. Ce n'est pas la paix que Jésus donne, c'est une fausse paix. Ça devient vite un cauchemar, cette paix. Et vous savez ce qui arrive? Les rêves morts commencent à pourrir. Celui qui tue ses propres rêves, il va vivre un pourrissement personnel. Ses rêves vont pourrir en lui-même et ils vont infester toute son atmosphère. Ils vont commencer à devenir cruels envers eux-mêmes. Ils vont s'auto-punir. Ils vont s'infliger des trucs incroyables. Et puis, ils vont devenir cruels envers les autres. Premièrement, envers leur famille. Parce que c'est toujours selon les degrés, n'est-ce pas? C'est Dieu, la famille, l'Église, le travail. Et voilà qu'il y a les maladies psychosomatiques qui commencent à pointer leur nez. C'est normal, on devient vieux, voilà, c'est normal. Non, non, non. Et ce qu'il voulait éviter, en fait, ce qu'il voulait éviter, c'est-à-dire dans le combat, il voulait éviter la déception, parce que c'est vrai que des fois on est déçu dans le combat, il voulait éviter l'échec, parce que c'est vrai que des fois, eh ben, on a des échecs quand on combat. Il voulait éviter la déception et l'échec, eh bien ça devient leur seul legs, le seul legs de leur lâcheté, la déception et l'échec. Pensez-y. Un jour, leur rêve mort et pourri rend l'air tellement irrespirables qui se mettent à désirer la mort. Ils se mettent à désirer la mort qui les délivrera de leurs certitudes, de leurs occupations et surtout de cette terrible paix des dimanches après-midi. J'en ai vu, j'en ai connu il y a quelques années, j'ai visité un vieil homme qui a écrit beaucoup de choses et j'avais lu 2-3 trucs de lui, j'avais trouvé ça formidable, j'ai été le trouver. J'ai trouvé un homme usé, fatigué, aigri, dans sa salle à manger avec sa femme qui était là et qui le regardait comme si c'était Dieu le Père. Il se prenait pour un prophète et au bout d'un moment, il a commencé à pleurer en me disant « J'ai raté toute ma vie. En fait, ce que vous faites, c'est ce que j'aurais voulu faire. Je n'ai pas fait. » Ça m'a fait vraiment très mal de voir cet homme. Je crois qu'il vit encore. J'ai essayé de lui écrire, de lui téléphoner, mais maintenant il me jette son venin, toute cette pourriture qu'il a en lui, il veut la partager, c'est difficile. Alors mes frères et sœurs, vous qui avez été conduits par Dieu pour écouter ce que je vous donne là, réfléchissez sur les choses. C'est ainsi que vous trouverez le bonheur. C'est ce que nous avons lu au début. Renoncez à vos certitudes, à votre paix du dimanche après-midi, pour vivre l'aventure du bon combat de l'amour, de la foi et de l'espérance. J'ai 65 ans, mes frères et sœurs, bientôt. Et j'ai plein de rêves, plein de rêves. Venez les vivre avec moi. Si vous n'êtes pas certain que c'est la volonté de Dieu, confiez-vous en l'Éternel et vous serez heureux. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Je vous relis le texte. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. C'est ce que nous dit ce texte. Vous savez, comme chaque vendredi, je m'installe dans mon bureau, je prie, je demande à Dieu, « Seigneur, tu veux que je dise quoi ce soir ?» Puis j'étais là, devant mes feuilles blanches, devant ma Bible, et tout d'un coup, ting, mon téléphone. Et c'était un SMS de ma fille, Mélodie, ma fille chérie, qui m'écrivait, et elle m'écrivait, sur évangile.com, le verset du jour, c'est Proverbe 16, 20. Je l'ai lu. Et maintenant, je vous ai dit, ce que Dieu voulait que je vous dise. Ne pensez pas que cela n'aura pas de conséquences. Il faut que vous y réfléchissiez. Il faut que vous réfléchissiez à ces choses pour trouver le bonheur. Il faut que vous vous confiez en l'Éternel. Réfléchissez à ces choses. Ne prenez pas ça à la légère. J'ai beaucoup de choses encore à vous dire. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le culte. Et en attendant, je prie de tout mon cœur que le Seigneur bénisse ces quelques mots, ces quelques pensées dans vos cœurs et qu'elles vous influencent afin que si vous avez tué votre rêve ou si vous êtes sur le point de le tuer ou si vous êtes en train ou sur le point de baisser les bras en disant c'est trop dur, eh bien que vous repreniez courage et que vous vous confiez dans le Seigneur et que vous aimiez. Vous arrêtiez. Vous savez, celui qui aime, il supporte tout. Celui qui aime, il ne soupçonne pas le mal. Celui qui aime, il fait confiance. Celui qui aime, il croit tout. Alors, redevenez comme ça. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. À dimanche.